tout de suite le journal avec Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. En Chine, dernier hommage au prix Nobel Liu Xiaobo, décédé jeudi dernier. La cérémonie funéraire s'est déroulée en toute discrétion et les cendres du dissident ont été dispersées en mer. Le récit de Dominique André au début de ce journal. Comment va l'économie iranienne 2 ans après la signature de l'accord historique sur le nucléaire? Nous ferons le point également avec Laure Verneau. La France, avec des milliers de bacheliers toujours sans affectation dans une université pour la rentrée. Résultat du 3e tour de la plateforme admission post-bac, la ministre de l'enseignement supérieur table sur une procédure complémentaire sur Internet. Explication à suivre de Solène Lehen. Enfin, focus sur le Vélib. À la fin de ce journal, le système de vélo en libre-service lancé il y a 10 ans a redessiné le visage urbain de Paris et de la Petite Couronne. Les précisions de Sarah Maquet à la fin de ce journal. Loin des regards, la Chine a incinéré le dissident Liu Xiaobo ce matin. Le prix Nobel de la paix est mort jeudi dernier dans le nord-est du pays des suites d'un cancer du foie. Le régime de Pékin ne l'a pas laissé finir ses jours à l'étranger, ce qui avait provoqué de nombreuses critiques de la part des pays occidentaux. La veuve du dissident a pu assister à la cérémonie ce matin, elle qui vivait en résidence surveillée depuis l'attribution du Nobel à son ancien mari il y a 7 ans. Le récit à Pékin de notre correspondante Dominique André.
Le prix Nobel de la paix a été incinéré ce matin, annoncent les autorités. La cérémonie s'est déroulée discrètement à l'écart de la presse. Son épouse Liu Xia était présente. Des photos diffusées par les officiels de Shenyang montrent la poétesse chinoise avec des lunettes noires, en pleurs, auprès du corps de son mari. Pour parfaire son image, le gouvernement local précise que le requiem de Mozart a été joué. Les autorités affirment que la crémation de la dépouille de Liu Xiaobo est conforme aux souhaits de la famille et des traditions locales. Que deviendront les cendres? La question est posée sur les réseaux sociaux. Nous annoncerons à tout le monde la situation en temps voulu, déclare un responsable du bureau d'information de la ville où Liu Xiaobo est mort en détention. Tous les regards sont tournés vers l'épouse du dissident. Madame Liu Xia est libre, assure les autorités sans plus de précision. Plusieurs États occidentaux avaient appelé à la libération sans condition. La presse nationaliste chinoise qualifie Liu Xiaobo de paranoïaque, naïf et arrogant, un article publié en ce jour de deuil pour les opposants chinois.
Et on apprend ce midi par la voix du frère du prix Nobel décédé que les cendres de Liu Xiaobo ont été dispersées en mer à l'issue de la cérémonie. Par ailleurs, un autre dissident chinois a été libéré ce samedi. Il s'agit de l'universitaire et militant anticorruption Chu Xiong. Il vient de purger une peine de prison de 4 ans pour rassemblement illégal visant à perturber l'ordre public. En 2013, il avait organisé des manifestations pour exiger la transparence sur le patrimoine des hauts fonctionnaires chinois. En Afghanistan, Abu Sayyed, le chef de l'État islamique dans le pays, a été tué dans une frappe de l'armée américaine, annonce du Pentagone. L'opération s'est déroulée mardi dernier. Abu Sayyed est le 3e chef de la branche afghane de l'EI à se faire tuer depuis le mois de juillet dernier. L'EI qui se bat à la fois contre les talibans et les militaires afghans et américains dans ce pays. Jean-Yves Le Drian en visite aujourd'hui et demain dans le Golfe. Le ministre des Affaires étrangères va plaider pour un apaisement rapide dans la crise sans précédent qui oppose le Qatar à ses voisins arabes. Depuis plus d'un mois, l'Émirat est la cible de ses voisins, notamment l'Arabie Saoudite et l'Égypte, qui demandent des sanctions diplomatiques. Ils accusent le Qatar de soutenir le terrorisme international et de se rapprocher de l'Iran. L'Iran qui sort progressivement de son isolement 2 ans après la signature de l'accord historique sur le nucléaire avec la communauté internationale. Téhéran s'est engagé à ne pas poursuivre son programme nucléaire militaire en échange de la levée des sanctions à son encontre, à commencer par la levée de l'embargo pétrolier. Aujourd'hui, Laure Verneau, l'économie va mieux, mais les transactions internationales sont encore compliquées.
Elle va mieux et c'est grâce au pétrole. 4 millions de barils par jour et c'est l'embellie sur l'économie iranienne. Le taux de croissance est passé de presque 0 à quasiment 7% en 2 ans et l'inflation reste en dessous des 10%. Des secteurs émergent comme l'automobile, le plus dynamique aujourd'hui du Moyen-Orient. Aussi, l'Iran a une population jeune qui consomme les produits occidentaux. Il y a dans le pays 78 millions d'habitants dont le quart a moins de 24 ans. L'Occident profite de cette ouverture. Depuis la levée des sanctions, la France se taille la part du lion. Tout récemment, Total a signé son plus gros contrat casier, 5 milliards de dollars. Mais ce n'est pas le seul créneau, il y a aussi Air France, Airbus ou encore PSA, Peugeot Citroën. Peugeot qui, sans son partenaire iranien, aurait accusé une perte de plus de 10% de ses ventes au premier semestre. Seule ombre au tableau, les sanctions primaires, celles prises par les Américains lors de la révolution islamique qui sont toujours en vigueur et agissent comme un frein sur l'économie. L'Iran est en quelque sorte blacklisté par l'Amérique dans plusieurs domaines, droits de l'homme, terrorisme, blanchiment d'argent. L'Iran ne peut donc pas commercer avec les États-Unis et les transactions en dollars y sont interdites. C'est pourquoi les banques occidentales ne peuvent pas s'y implanter et y limitent leurs investissements. L'arrivée du président Trump au pouvoir a aussi rebattu les cartes. Lui qui voulait déchirer cet accord qu'il trouvait très dangereux, ce sont là ses propres termes. Depuis, il s'est assoupli, calmé par son administration. Le président doit décider lundi d'alléger ou non les sanctions envers l'Iran, ce qui pourrait à terme lui permettre une pleine réintégration économique sur la scène internationale.
Précision signée Laure Verneau. La Corée du Nord aurait produit plus de plutonium qu'estimé jusqu'à présent pour son programme d'armement. Conclusion du site internet américain 38north.org, site internet qui fait référence sur ce sujet et qui est rattaché à l'université Hopkins à Washington. Les analystes ont publié des images thermiques du centre nucléaire du régime de Pyongyang, images qui laissent penser que la Corée du Nord a retraité des barres de combustible au moins deux fois entre septembre 2016 et juin dernier. 87 000 bacheliers sont toujours sans affectation dans une université pour le mois de septembre, pour la rentrée. Ce sont les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur à l'issue du dernier tour de résultats de la plateforme APB pour admission post-bac. La situation est particulièrement délicate cette année car la pression démographique est plus forte. 40 000 étudiants de plus ont candidaté par rapport à l'an passé, mais les capacités d'accueil des universités n'ont pas changé, Solène Lehen.
Ce sont précisément 86 969 candidats qui n'ont reçu aucune proposition de formation à l'université pour la rentrée en septembre, faute de places suffisantes. 87 000 candidats sans affectation, c'est 30 000 de moins qu'il y a trois semaines lors de la deuxième phase de résultats APB, mais cela reste presque un bachelier sur 10. Les élèves qui, eux, avaient formulé en vœu numéro 1 une filière théoriquement non sélective et dans leur région, donc qui devaient être admis quoi qu'il arrive, sont même encore presque 10 000 sans solution. Parmi les filières les plus en tension, sans surprise, STAPS, la filière sport. La ministre de l'Enseignement supérieur promet que des moyens supplémentaires vont être débloqués avec les universités qui, je cite, « disposent d'ultimes marges de manœuvre ». Frédéric Vidal qui rappelle aussi l'existence d'une procédure complémentaire sur Internet, avec aujourd'hui environ 200 000 places disponibles dans diverses filières.
Les précisions de Solène Lehen. C'est un service de déplacement urbain qui a trouvé complètement sa place en 10 ans. Le 15 juillet 2007, le groupe industriel français JC Decaux lançait ses premiers Vélib dans les rues de Paris, système de bicyclette en libre service qui a ensuite été repris dans une quarantaine de villes en France. Dans la capitale et la petite couronne parisienne, le service va connaître un nouveau souffle à partir de janvier prochain. Le marché change de main. Il a été attribué à une start-up de Montpellier. Nous allons y revenir. Bonjour Sarah Maquet.
Bonjour.
Mais d'abord, le Vélib, c'est un nouveau visage pour l'aménagement urbain à Paris.
Oui, imaginez-vous qu'en 1995, Paris comptait seulement 6 km de pistes cyclables. On en est aujourd'hui à 700 km et Paris a un objectif de 1400 km cyclables en 2020. Alors le succès n'est pas seulement lié au vélo en tant que tel, mais bien à un nouvel équilibre entre les différents modes de transport. Selon l'urbanisme Frédéric Errand, depuis 1990, le trafic automobile à Paris a diminué de 45%, d'où le retour en force du vélo, retour également motivé par certaines grandes grèves dans les transports publics. Ce fut le cas en 1995. Conséquence, la construction dès 1996 des deux premiers axes cyclables parisiens. Le lancement du Vélib n'a fait finalement que confirmer cette nouvelle place du vélo dans la ville. De 10 000 bicyclettes en service il y a 10 ans, le Vélib propose aujourd'hui 18 000 vélos pour plus de 300 000 abonnés.
Alors que va amener le nouveau gestionnaire ?
Alors le nouveau gestionnaire, en effet, puisque JC Decaux a perdu le contrat parisien du Vélib, estimé à 700 millions d'euros, un contrat remporté par Smooth & Go, groupement entre la start-up montpelliéraine Smooth, mais aussi entre autres avec le numéro 1 français du parking Indigo. Beaucoup de changements à prévoir donc à partir de janvier pour les cyclistes. L'abonnement Vélib devrait augmenter et une vingtaine de nouvelles communes seront également équipées du service. À noter que certaines communes refusent l'arrivée des vélos libre-service en raison des coûts d'entretien trop élevé. Le Vélib devrait cependant continuer son développement. Smooth & Go prévoit déjà l'installation d'ici mars prochain de 200 nouvelles stations Vélib dans 51 communes de Paris et sa petite commune.
Merci Sarah Maquet pour vos explications. La météo avec une belle journée sur une grande partie du pays. Ciel toutefois nuageux des Hauts-de-France au nord-est de la France et des cumulus se développeront cet après-midi sur les Pyrénées, les Alpes du Sud et le relief Corse avec parfois des averses et les températures. Il fera 24 à Lille, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 28 à Lyon et jusqu'à 31 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon. À la technique, c'était Emmanuel Morse-Duncan.